vous voulez comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre,
car c'est vision la seule. Bon, tu nous prends, Martin Carly, tu nous parles des prix Breakthrough. Qu'est-ce que c'est?
Oui, absolument. Ce sont des prix qui visent à souligner l'apport exceptionnel de différentes personnes dans différentes catégories en sciences. C'est plusieurs mécènes, incluant Mark Zuckerberg de Facebook, qui ont créé ça. Donc, les gagnants des prix Breakthrough vont gagner une bourse de 3 millions de dollars. Cette semaine, c'était donc la remise de ces prix-là. Et j'en ai retenu un. En fait, je voulais vous parler d'une découverte qui a été récompensée cette semaine par les prix Breakthrough. Il s'agit d'une découverte faite par une chercheure américaine qui pourrait peut-être contribuer à passer la MOP au niveau des changements climatiques, pour prendre l'expression. Parce qu'il faut savoir qu'on sait que les plantes sont des contribuent à limiter les impacts des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en captant du carbone. Donc les plantes ont de très bons pièges à carbone, si on veut. Mais on a ici les travaux d'une chercheure qui aurait trouvé un moyen de rendre des plantes encore meilleures pour piéger du carbone et qui pourrait donner un sérieux coup de pouce au niveau des gaz à effet de serre. Donc réduire de façon spectaculaire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ben essentiellement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a étudié des plantes. Donc, elle travaille depuis déjà des années sur le métabolisme et la croissance des plantes. Donc, d'essayer de voir tous les facteurs génétiques qui viennent influencer tant le métabolisme que la croissance des plantes. Et elle s'est intéressée à une substance en particulier qu'on appelle la subérine. La subérine, c'est une substance qu'on connaît tous dans la vie sous le nom de liège. En fait, on en retrouve dans le liège.
OK.
Et la subérine est une substance très intéressante parce que c'est une substance qui dure très longtemps, donc qui est non biodégradable et qui est composée principalement de carbone. Donc, c'est une substance qui peut piéger du carbone et qui peut demeurer là plus de 1000 ans dans le sol sans se dégrader. Donc, ça peut être un piège en place pendant très longtemps si on réussit à installer tous ces pièges de subérine-là, qui sont déjà, bien entendu, dans la nature. Donc, on les retrouve dans les arbres desquels on extrait le liège, bien entendu.
Oui.
Mais la subérine est aussi produite par les racines de beaucoup de plantes. Donc, elle, ce qu'elle a fait essentiellement, c'est qu'elle a utilisé des techniques de reproduction croisée de génie génétique pour pouvoir augmenter la quantité de subérine produite par certaines plantes et ou carrément faire produire de la subérine par des plantes qui n'en produisaient pas jusqu'à maintenant.
Et tu es en train de me dire qu'un OGM qui sont souvent dénoncés peut servir à quelque chose
d'utile? Carrément sauver le monde.
Ah, ouais.
Absolument, absolument. Tout à fait. Donc, l'OGM, en passant, c'est une technique. Hein? C'est, on modifie le code génétique d'un être vivant. Il ne faut pas toujours voir ça avec comme un épouvantail et qu'il faut en avoir peur. Là. Au contraire, c'est...
Comme on l'a déjà dit, si vous mangez des clémentines sans pépins et vous insurgez des OGM,
ben, c'est ça.
Dites-vous que vous n'êtes pas nécessairement concordant dans votre discours.
Disons que les arguments n'ont pas tous été présentés.
Non.
Hein? On va dire ça. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'elle fait essentiellement, c'est qu'elle a donc modifié des plantes génétiquement. Certaines plantes, notamment les pois chiches, par exemple, donc qui seraient cultivées pas pour fournir de la nourriture, mais uniquement pour piéger du carbone dans l'atmosphère. Et ce qu'il faut ici, c'est qu'ils ont fait les calculs et en dédiant 5 % de la culture agricole sur la planète à la production de subérine. Donc, en modifiant 5 % des plantes agricoles sur la planète, on réussirait à diminuer, attention, de 50 % les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 50 %, imagine. Évidemment, 5 % de la culture agricole, c'est pas négligeable non plus, parce que ce serait des plantes qui ne serviraient plus à nourrir les gens, puisqu'elles deviennent inutiles pour la nourriture si on les modifie pour produire de la subérine en grande quantité. Donc, on perdrait de ce côté-là au niveau de l'apport alimentaire des cultures agricoles, mais on pourrait carrément peut-être même sauver le monde avec ça en mettant un couvercle sur la marmite des gaz à effet de serre de façon spectaculaire, presque d'un coup. Et ces plantes-là, donc, demeureraient comme ça. On continuerait à les cultiver uniquement comme piège à carbone et pour essayer, comme j'ai dit tantôt, de un peu passer la mop sur le dégât qu'on a fait en tant qu'espèce.
Il est 10h47. La suite dans un instant. On se parlera entre autres des os du Père Noël qui auraient été identifiés. 10h51 avec Martin Carly, les os du Père Noël ont été identifiés.
Oui, absolument. Là, il y en a qui doivent sourciller dans leur voiture présentement. Bon, c'est un titre pour faire un clin d'œil, parce qu'en fait, on parle d'un saint, Saint-Nicolas, qui est celui qui a vraiment inspiré la légende du Père Noël, bien entendu. Pourquoi? Parce que c'était un saint qui est réputé pour sa générosité, et selon la légende, il circulait dans les rues de la ville où il habitait, dans la Turquie actuelle. Mm-hmm. On parle de la ville de Mir, qui est devenue la ville de Demre, en Turquie. C'est là où il habitait. Et selon la légende, donc, il se promenait dans les rues de sa ville, et lorsqu'il passait à côté de la maison d'une famille défavorisée, il lançait par la fenêtre un sac avec des offrandes, avec des sous et tout ça. Donc, c'est la légende qui entoure Saint-Nicolas. Donc, son nom a été déformé en Santa Claus en anglais. Donc, c'est le Père Noël que l'on connaît aujourd'hui. Mais il faut savoir que, comme dans le cas de bien des saints, il y a toutes sortes de reliques qui existent, donc des morceaux de son corps essentiellement qui auraient été dispersés un peu partout. Dans différentes églises. Principalement, on retrouve l'essentiel des reliques de Saint-Nicolas dans la basilique Saint-Nicolas, donc qui porte son nom à Bari, en Italie, et ça depuis 1087. Il y a environ 500 morceaux de son corps qui sont à Venise, et il y a des fragments, donc tout le reste des fragments ont été dispersés avec... Oui, c'est ça, hein? Un peu trash quand même.
Dans un tueur si proche, plus que dans une chronique scientifique sur le Père Noël.
On regarde beaucoup de films d'horreur. Tu sais, là, honnêtement, on est pas mal là. Alors, moi, j'ai juste l'image de Rocco Magnotta qui me vient en tête. On s'entend.
C'est pas un
parallèle qu'on a envie de faire. Alors, et il y a beaucoup de fragments comme ça qui ont été acquis par des églises un peu partout sur la planète, donc pour avoir des reliques saintes, donc de ce saint-là. Alors là, une de ces reliques-là qui appartient à un prêtre américain, Dennis O'Neill, donc dans une église américaine, et qui provient de Lyon, en France, a été analysée par des chercheurs d'Oxford. Donc, ils ont pris un micro-échantillon de ce petit morceau d'os, qui est un os pelvien, donc au niveau du bassin du sein. Et ils ont voulu le tester pour savoir est-ce que ça fait du sens, parce que la plupart du temps, quand on teste des reliques, ben on voit des grosses incohérences au niveau de la datation entre l'os qu'on a et l'époque à laquelle le saint allégué aurait vécu. Dans ce cas-ci, on parle d'un saint qui a vécu qui serait mort environ en 343 après Jésus-Christ, donc il y a quoi, 1700 ans de ça à peu près. Mm-hmm. Et on a fait une datation au carbone 14 et on arrive à une date qui correspond tout à fait avec la période où aurait vécu ce saint-là. Donc, pour une fois, il semble qu'on ait des ossements qui font du sens, qui pourraient être authentiques, qu'on croit être authentiques. Évidemment, on n'est pas encore prêt à dire... On a un morceau de Saint-Nicolas ici, parce que, je vous ai dit, il y a des restes en Italie. Alors là, on va pouvoir comparer avec ces restes-là pour voir s'il s'agit du même individu. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire, ben écoute, on a les ossements de Saint-Nicolas qui a donné naissance à la légende du Père Noël. Donc, c'est un clin d'œil comme ça que je voulais vous faire à l'approche des fêtes. Voilà.
Intéressant, ça. Écoute. En une minute, est-ce qu'on est capable de parler du chant des oiseaux?
Oui, on peut faire ça très rapidement. Une étude qui a été faite par des chercheurs de Montréal.
Oui.
Ils ont pris des oiseaux, des diamants mandarins, qui sont de magnifiques petits oiseaux. Et dès leur naissance, ils ont exposé certains de ces oiseaux-là à des chants qui ont été manipulés. Donc, ils n'ont jamais entendu des vrais chants de leurs congénères. Résultat, est-ce qu'ils ont été capables de chanter normalement pareil? Eh bien, oui. Ils chantent normalement. Ils ont été capables de reproduire des motifs qu'ils n'ont jamais entendus. Ce qui soulève l'hypothèse que ce serait inné, donc carrément. Encodé dans leur gène. Et en plus, on retrouve des phrases qu'on voit aussi chez l'humain, chez d'autres oiseaux et tout. Donc, il y aurait peut-être une grammaire universelle et le langage... Ouais, peut-être pas...
Ça, c'est Fred Perron qui nous parle pour nous dire que l'émission est terminée.
On n'est pas sûr. Hein?
Martin Carly, merci beaucoup.
Bonne
salut. On se retrouve demain à compter de 7 heures pour Weekend Extra. Passez une belle journée. À demain. Bye-bye.